plus cette année, c'est Wiz.
Mesdames et messieurs.
Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Dis-moi, mais c'est le roll-off de 29 qui commence.
Exactement, la 29 et... déjà, c'est fou, hein, le temps passe vite, hein, c'est hallucinant.
30e anniversaire, la prochaine fois. j'espère que vous allez bien. Et toi ça va bien, Bubu?
Bah écoutez, ça va pas mal.
Un peu fatigué, tu me disais.
Ouais, un peu fatigué. Ouais. Bon, je fais des tableaux Excel, je fais des rapports, je fais des trucs super intéressants.
Voilà. Quel drôle. Eh bien, on va voyager encore une fois, évidemment, une fois de plus. Du classique, hein, cette fois-ci.
Un peu.
Oui, alors ouais. New York, on ne s'est pas concerté, mais New York, on y va tous les deux. En 57, en 71 et en 73. On va aller à Londres en 76 et en 77. Vous imaginez Londres, 76-77?
C'est pas mal. Moi,
j'aurais bien voulu y aller.
Je vois bien de quoi on va parler, a priori.
Quoique. Ensuite, on va aller à Oxford, mais attention, ce n'est pas le Oxford anglais, c'est Oxford dans le Mississippi.
Exactement, dans le Mississippi, voilà. Avec deux S et deux P.
En 1999, comme
99,
tu dis.
Exactement. Voilà,
99. Et nous irons à Paris en 67.
Eh oui, parce que c'est une réclamation, c'est une nouvelle fois notre auditrice de la source.
Ah, celle-ci alors.
Ah, mais qui veut à tout prix augmenter le niveau culturel de notre émission. Donc bon, voilà, on va vous expliquer après.
je vais ouvrir le bal avec notre célèbre maintenant. Notre... très très célèbre. Rubrique last but not least.
Alors à ce titre, nous avons un auditeur orléanais,
ah,
oui, tout à fait, qui travaille, enfin du moins qui a des responsabilités dans les hautes sphères des musiques amplifiées à Orléans, et qui a nommé deux reprises de Walking the Dog.
Oui, oui.
Donc une de Sandy Shaw et l'autre, j'ai oublié.
Oui, oui. Je l'ai croisé à la manif.
D'accord.
On en a parlé.
Pas de politique pendant Roll Map, s'il vous plaît.
Donc tu sais pas pourquoi et où je manifestais. donc on va parler d'une chanson qui s'appelle Parchment Farm.
Superbe chanson.
Oui. Qui a été écrite par Monsieur Mose John Allison Jr., plus connu sous le nom de Mose Allison. Il est né à Tallahatchie, alors dans le Mississippi.
Eh oui.
Et voilà, en 1927. Il était pianiste, chanteur, auteur, compositeur, et de jazz et de blues en fait.
Ouais, ouais.
Il a commencé plutôt par des choses blues, et à partir des années 80, il s'est tourné résolument vers le modern jazz.
Parce qu'il a appris à jouer du piano.
Mais il a commencé dès le départ, hein. Il est d'ailleurs réputé pour ça, pour ce mélange de jazz et de blues. C'est vraiment très très particulier, et il est vraiment unique, hein, dans son genre. Alors après avoir déménagé à New York en 56, il a travaillé principalement dans des formations de jazz, alors jouant avec des gens comme Stan Getz, quand même pas mal, hein. Alcon ou Zoot Slims, tout en enregistrant de nombreux EP albums. Il a fait une tripotée de singles, de EP et d'albums. Il est connu aussi comme ayant été un des rares bluesmen blancs à avoir eu de l'influence sur les suiveurs britanniques et américains des années 60-70. Quand on pense au blues américain, on pense évidemment au Muddy Waters, au Johnny Hooker et compagnie, mais beaucoup moins à Mose Allison. Et beaucoup ont dit avoir été influencés par sa musique, notamment Jimi Hendrix, Gigi Kale, les Yardbirds, Tom Waits ou encore Pete Townshend.
C'est pas mal.
Oui. Donc à ce titre, deux morceaux sont plus connus chez les amateurs de rock'n'roll. Donc c'est le Young Man Blues qui a été enregistré en 58 et qui a été repris par les Who.
Exactement. Alors, la version
sur un single, ouais, sorti en 68. Et surtout la version de Live at Leeds.
Exactement.
Une extraordinaire version. Quand on écoute l'original, c'est assez surprenant. Et donc Parchment Farm, enregistré un an avant, en 57, repris entre autres par John Mayall en 1966. John Mayall et Blues Breakers.
Exactement, avec Clapton. Eric Clapton. Et on fait le lien avec la Roll Mops numéro 28. Mais quel professionnalisme. Oh là là.
Nous aimons tous les deux beaucoup Eric Clapton.
Oui. Bon, à cette époque, ça allait. Hein.
Oui. Ah non, c'est un bon album.
Ouais, il chantait pas, il faisait que de la guitare. C'était bon.
C'était pas mal. donc les années 80 ont vu la popularité de Mose Allison augmenter auprès de nouveaux fans, attirés par son mélange donc de jazz moderne et de blues. Dans les années 90, il a commencé à enregistrer de manière beaucoup plus cohérente. Hein. Il a une musique qui a été beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus ciblée et un peu moins en recherche, on va dire. Van Morrison ou Georgie Fame ont collaboré avec lui sur un album hommage qui s'appelle s'appelle Tell Me Something, The Songs of Mose Allison. Les Pixies ont écrit une chanson qui s'appelle Allison, en son hommage. Ouais. Il meurt en 2016 à l'âge de 89 ans. C'est honorable.
C'est très bien.
C'est vénérable. Et il laisse derrière lui 32 albums. Pas mal, hein. Alors, pour ma part, Parchment Farm, je connais, et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé des versions par les Nashville Teens, par exemple.
D'accord.
Tu vois, le groupe qui accompagnait en 65 Jerry Lewis.
Exactement, avec le fameux live au Star Club.
C'est ça. Johnny Rivers, il fait beaucoup de reprises, lui. John Mayall et Blues Breakers, je l'ai dit. Johnny Winter. Le groupe américain Cactus et Hot Tuna, groupe américain Hot
Exactement,
Tuna également.
Que nous avons déjà passé, enfin que tu as déjà passé.
Tout à fait. Alors donc on écoute Mose Allison qui nous chante et joue au piano Parchment Farm, single de 1957.
Well I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm, and I ain't never done no man no harm. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back. Sitting over here on number 9. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9, and all I did was drink my wine. Gonna be here for the rest of my life. We'll be right back.
Parchment Farm.
Boogie. Boogie. Version excellent, quoi. Terrible.
Alors, c'était qui? C'était Nash Wilton? C'était Johnny Rivers? C'était John Mayall? C'était Johnny Winter? Cactus ou Otuna?
Ah, bah, c'était Cactus, évidemment.
Oui, c'était Cactus. Je m'étais promis la dernière fois qu'on avait fait un spécial Jeff Beck, parce qu'en fait, Jeff Beck avait joué avec deux personnes de Cactus. Donc, j'avais dit, ah, tiens, ce serait une bonne idée de parler un petit peu de Cactus. Eh ben, je vais pas en parler qu'un petit peu, puisque là, ça a été donc la version de Last But Not Least. Mais je vais vous parler un petit peu de Cactus après une page de publicité.
Voilà.
Et donc avant c'était bah évidemment c'était Mose Allison hein. Oui je disais bluesman oui particularité donc bluesman blanc puis surtout bluesman pianiste.
D'ailleurs on peut remarquer des similitudes avec Georgie Femme au niveau de la voix notamment dans cette chanson. Il y a même un moment on a l'impression que c'est Georgie Femme qui chante. D'accord. Ouais, il y a vraiment un timbre de voix très 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 similaire et très proche.
D'accord. Donc d'où leur collaboration
voilà,
sur l'hommage. Voilà donc Parchment Farm de Cactus ensuite de le premier album Cactus en 1970.
Très bien. Eh bien écoutez, moi je vais donc répondre à la réclamation de notre auditrice de la source qui souhaiterait qu'il y ait un peu plus de culture intellectuelle dans notre émission Roll Mops. Ouais, et donc du coup, je vous emmène en 1967 à Paris. Qu'est-ce qui se passe en 1967 à Paris ou du moins en France? Eh bien, à peu près tout le monde est sous les ordres du général de Gaulle à part eh bien les salariés du privé puisqu'il y a à peu près des grèves tous les mois, c'est assez chaud. On ouvre la centrale nucléaire de Tricastin, vous savez dans la vallée du Rhône, celle où il y a l'enfant avec le regard triste sur les cheminées quand vous partez en vacances. Et puis bah, les étudiants, bah, ils font pas grand chose à part d'écouter eh bien, de la musique. Et donc en 67, il se passe deux événements, on va dire, hein, assez remarquables. Eh bien, il y a Maurice Béjart qui, lors du Festival d'Avignon, commande à notre ami Pierre-Henri et Michel Colombier, à nos amis Pierre-Henri et Michel Colombier, eh bien, de la musique pour la messe pour le temps présent. Donc c'est un ballet voilà, qui dure à peu près 35 minutes en 9 tableaux. Voilà, alors donc, je vais vous passer un truc qui est un grand classique. Vous allez dire, mais un classique, Roll Mops. Mais oui, malgré tout, je me dis, je passe un grand classique. Et ce grand classique, évidemment, c'est la plage 2 du disque et qui fait partie donc du ballet, c'est Psyché Rock. Alors, Psyché Rock, tout le monde le connaît à peu près, mais peu de gens l'écoutent en entier, puisque au fait, c'est quoi? C'est soit un jingle, soit un remix fait par Fatboy Slim, par exemple, soit une bande-son dans un film dans Z de Costa Gravas. Mais est-ce que vous l'avez entendu en entier? Allez savoir.
Ah non, moi jamais.
Eh bien voilà, donc ça va être l'occasion. Donc au fait, ce morceau, ben, au départ, il est composé par Michel Colombier, qui lui, au fait, c'est une base tout à fait classique, guitare, basse, batterie, un ensemble rock, avec un riff qui est très influencé par Wild Things des Troggs, ou éventuellement l'intro de Get Off My Clouds des Rolling Stones. Et puis, ben, en fait, Pierre-Henri, qui lui travaille plutôt dans le mouvement musical de la musique concrète, et plus généralement la musique industrielle, ben, en fait, il bidouille. Il bidouille donc avec des pistes, avec des crissements de pneus, avec des enregistrements, des cloches, des flûtes, enfin voilà, il en met dans tous les sens, ce qui fait ce truc un petit peu psychédélique. Et je vous propose de l'enchaîner avec justement un autre événement de l'année 67. Eh bien,
t'as bossé, toi, dis donc.
Mais comme un fou. C'est pour ça que je suis fatigué, en fait. avec, en fait, un morceau de Serge Gainsbourg interprété par la fabuleuse Anna Karina. Et c'est autre que Roller Girl qui est tiré de la BO du film, enfin du téléfilm Anna. Puisque, en fait, Serge Gainsbourg a répondu à la demande de l'ERTF de faire un téléfilm musical, on va dire très influencé par la nouvelle vague, puisque la plupart des techniciens sont tous des gens qui travaille avec Godard au Truffaut, et d'ailleurs il y a plusieurs plans dans le film qu'on peut trouver des similitudes avec la nouvelle vague. Et puis en fait les deux rôles sont tenus par Anna Karina et puis Jean-Claude Brialy. Alors Jean-Claude Brialy, Anna Karina chante, on va dire moyennement, mais ça passe. Jean-Claude Brialy, c'est une catastrophe, mais néanmoins ce morceau Roller Girl, bien en fait il y a beaucoup de similitudes au niveau de la rythmique avec le morceau Psyché Rock, à se demander même si c'est pas les mêmes musiciens qui ont enregistré, parce que c'est vraiment très proche. Et il y a un super solo de fuzz dans ce morceau qui est assez fabuleux. Voilà. Et puis alors donc pour terminer un petit peu sur cette année 1967, notre ami Gainsbourg fait chanter Anna Karina « Je suis la fille en Harley Davidson ». Et figurez-vous que Gainsbourg compose Harley Davidson pour Brigitte Bardot en 67, qui ne sortira qu'en 68. C'est quand même un petit malin ce bon vieux Gainsbourg. En tout cas, on y va. Donc 1967 les filles, here we go.
Yep. We'll be right back.
Voilà, voilà, voilà.
C'est le même guitariste, hein, j'ai l'impression.
Bah, c'est ça, le même son. De toute façon, Colombier travaillait avec Gainsbourg aussi, donc je pense que c'est les mêmes musiciens, vraiment.
Peut-être bien,
c'est peut-être même la même session. De toute façon, c'est le même morceau, hein, c'est quand même là.
D'ailleurs, on n'a même pas vu la transition.
Ben voilà, là, Rémi, voilà, bon, ben ok, on y va, on fait un morceau. Ben en tout cas, c'est super. Hein, moi, c'était au moins en 67, la musique était fraîche, on rigolait, voilà.
C'est aussi Anna Karina qui chantait Sous le soleil, exactement.
Alors, il y a eu plusieurs versions, mais elle l'a fait aussi, ouais, tout à fait, exactement.
Très bien, bah voilà, c'était la page culture.
Bah exactement.
Radio Culture, 88.3.
Normalement, on devrait remonter un petit peu dans les points de l'autre de l'Olibat. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Campus 88.3.
Et j'espère que vous êtes heureux d'être sur Radio Campus 88.3.
Alors, Léon.
En notre compagnie. Alors, bien sûr. Alors donc, comme promis, je vous parlais un petit peu donc, du fameux cactus. Donc groupe de heavy boogie blues, on pourrait dire ça comme ça.
C'est ça.
Originaire de New York, hein, quand on écoute leur musique, on se dit oh tiens, ça ne pas très new-yorkais ça. Cactus a été initialement formé à la fin de 69 par les anciens membres de Vanilla Fudge. On a passé un morceau de Vanilla Fudge, tu te rappelles, Bubu?
Tout à fait.
Voilà. Et donc la particularité de Vanilla Fudge, c'est qu'il y avait un espèce de chanteur organiste qui était un peu habillé comme Mandrake et qui avait une superbe voix, il y avait beaucoup de reprises un peu grandiloquentes et de l'orgue et surtout une section rythmique d'enfer. Et justement, c'est cette section rythmique, donc le bassiste Tim Bogert et le batteur Carmine Appice. À l'origine, le groupe devait être un super groupe avec le guitariste anglais Jeff Beck. Voilà, on en avait parlé quand on avait fait spécial Jeff Beck. Et son compatriote Rod Stewart au chant. Alors moi, j'aurais voulu avoir Rod Stewart au chant, Jeff Beck à la guitare et Carmine Appice et Tim Bogert à la batterie et à la basse. J'aurais voulu voir ça. Donc Beck a eu malheureusement, hein, si vous avez bien suivi l'émission sur Jeff Beck, un accident de la route qui l'a tenu écarté pendant une année hein, de toute musique. Donc voilà, plouf pour le super groupe. Au début des années 70, Bogert et Appice ont fait venir le guitariste de blues Jim McCarty et le chanteur Rusty Day. Cette formation a sorti 3 albums sur Atco Records, Cactus en 70, One Way or Another, superbe album, en 71 et Restrictions en 71. Alors avant que des problèmes intra-groupes ne conduisent McCarty à démissionner à la fin de 71. Rusty Day a été licencié, lui, carrément.
Bah,
allez, fous-moi le camp.
Allez,
du groupe, peu de temps après. Hein. Le quatrième et dernier album original de Cactus, c'est un live, s'appelle Hot and Sweetie, en 72, et qui donc comportait la section rythmique originale Bogert et Appice, rejoint par Werner Fritschings à la guitare et Duane Hitchings au clavier, ainsi que Peter French au chant. Donc la rupture définitive a eu lieu peu de temps après la sortie de ce LP. Ils auront été prolifiques, quand même 4 albums en 3 ans, c'est pas mal. On a dit d'eux qu'ils étaient des précurseurs du hard rock, alors on a dit beaucoup, hein. On a dit de beaucoup de groupes qui étaient précurseurs du hard rock. Hein,
mais ils font partie de la bande des précurseurs du hard rock.
Oui, voilà. Oui, ce sort de heavy blues, hard heavy blues.
C'est surtout la section rythmique, en fait, c'est la batterie là, avec les doubles croches à la grosse caisse, automatiquement, ça fait une assise.
Le chant, hein. On les a comparés aussi, on a comparé le style de leur premier album aux deux premiers albums de Led Zeppelin, dans le style. C'est-à-dire que c'est un peu heavy,
bien lourd.
Les voix sont, un petit peu. Et donc Bogert et Appice finiront enfin par rejoindre Jeff Beck en 73 et ils enregistreront ensemble l'album Beck, Bogert and Appice et un Live in Japan en 73 également. Alors on va écouter donc un long morceau hein, qui montre bien ce qu'était Cactus, c'est un morceau en deux parties, vous allez le voir. Hein. C'est un boogie blues qui s'appelle Big Mama Boogie, sorti donc de leur deuxième LP One Way or Another en 71. Cactus. Thank you.
want the ball, darling, I like the ball. Boogie feels good and good in my heart. Man, it's so good, I don't think I stop. When I get the feeling good, I shake my thing. I get the feeling good, forget about everything. I just get a boogie deep down in my soul. I'm not afraid to react, not afraid to let go. Some of the things she does just make my mind go wild. I tell her back off, but sometimes she don't hear. I tell her get back, baby, sometimes she won't hear. Then she gets a little push, I make my position clear. Look out, baby. I'm like a train conductor, baby, when it comes to my life. Like an airplane pilot, darling, when it comes to my life. I kick you off my flight if you keep on giving me jive.
Alors, au fait, c'est surtout c'est partie de ces groupes qui ont commencé à mettre en avant les bassistes. Là, le mec.
Ah oui, il est terrible. Tim Bogart, il est. Et puis le double pied de grosse caisse.
C'est réellement génial.
Et c'est binaire en même temps.
C'est un boogie. Hein,
Donc, voilà. C'était donc Cactus avec Big Mama Boogie, part 1 and 2. Ouais.
Excellent. Merci
même
beaucoup.
Pour la partie, super, ça swing bien.
Alors, Monica, parce que tu n'as pas précisé que oui. Le chanteur était quand même un un excellent harmoniciste. Hein.
Absolument. Et rythmiquement, c'est la guitare sèche et l'harmonica, ça peut être très très mauvais, mais là c'était. C'est du boogie.
Très bon, excellent.
Voilà, Cactus.
Eh bien, formidable, merci beaucoup, Lolo.
Ah,
alors, vous avez certainement dû entendre la radio et appris la semaine dernière.
La mort de Tom Novembre.
Non. Non, il est toujours en vie.
Ah, c'est pas Tom Novembre.
Non, non, non.
Oh merde, j'ai envoyé mes condoléances à Charlie Couture.
D'ailleurs, il joue à la Ferté-Saint-Thomas. Samedi dans une semaine. Voilà. Non, ben oui, évidemment, Tom Verlaine est décédé, je crois, à 78 ans d'une maladie, a priori, voilà. Et donc, bien, comme à l'accoutumée, puisqu'on fait du rock, donc c'est un petit peu une émission nécrologique. Donc...
Alors, j'en parlais à la manifestation avec notre cher auditeur. À ce rythme-là, vous allez faire une rubrique nécrologique à chaque fois que vous allez faire une émission.
Alors, du coup, évidemment, toute la radio publique a dû passer 25 secondes à See No Evil, hein, le premier morceau du premier album de Television, Marquis Moon. Bon, je me suis dit, j'ai un peu me casser un peu plus, oui. Puisque vu que j'ai passé deux standards avant. Et donc, du coup, j'ai un peu cherché, j'ai un peu creusé. Et puis, je me suis rappelé qu'avant de faire Television, eh bien, en fait, notre ami Tom Verlaine, accompagné de Richard L. et de Billy Fica, qui seront les trois membres également fondateurs de Television, avaient formé les Neon Boys, formés en 1972, splitté en 1973, et le 45 tours ne sortira, deux 45 tours pardon, ne sortiront qu'en 75 sur le label Check Records. Et donc du coup, oui, ils sont splittés parce qu'au fait, ils étaient. Tom Verlaine chantait bien, jouait bien de la guitare. Alors à la batterie, par contre, Billy Fica, vous allez voir, il pouvait mieux faire. Mais ce qui est super intéressant avec ce morceau, c'est que c'est vraiment le lien avec, en fait, avec les 60s, que ça pourrait être un morceau sur les Peebles, sur les Back from the Grave. C'est from the Grave, c'est juste que c'est des débuts des années 70 et non pas au milieu des années 60. Mais vraiment, il y a le lien avec ce que va devenir après le punk et la scène punk new-yorkaise. À noter que. Notre ami Richard L, quand il se barre, parce qu'il est au début dans Television mais il n'enregistre pas, et il se barre quand même avec des chansons qu'il avait fait avec Neon Boys notamment, hein. Il y a trois chansons qu'il va réutiliser sur son propre album qui sortira lui en 77. Et puis donc je vous proposais donc après donc ce morceau des Neon Boys, je vous propose un morceau des Neckbones, Ocean of Blue. Donc c'est les Neckbones, c'est un morceau donc qui vient de Oxford dans le Mississippi, comme tu l'as précisé au début de l'émission. Donc c'est un groupe de, on va dire, de garage punk qui a splitté maintenant, hein, qui a commencé son activité en 94, qui a décidé de se séparer autour de 2000. Et quelques membres ont formé avec Jack Oblivians, The Oblivians, les Cool Jerks. Et ils reprenaient d'ailleurs certaines chansons, dont cette chanson Ocean of Blue, que du coup j'ai pu les voir en concert lors d'un Cosmic Trip, je ne sais plus quel numéro, et j'étais trop fan de l'entendre en direct. Et je trouve que cette chanson a vachement de bien au niveau de la mélodie, la manière de chanter, la guitare un petit peu limite, désaccordée, permanente. Du titre des Neon Boys. Donc, on y va avec ça. Donc, on part en 1973 et on enchaîne après avec 1999.
Yeah. soul, my heart, and wrap them in rags and jerk them tight. Oh, hurry, hurry, somebody, but give me a ride one more time. Well, now I'm sitting here all alone, from my telephone, reading your letter, trying to remember your face. I'm going across the ocean blue to make my way back to you. Across the ocean of blue to make my way back to you. My eyes were made of diamonds, but now they're shattered glass. And I'm looking all over, finding pieces of my past. But they got swept underneath our loves and dreams. Somewhere along the way, we lost sight of the important things. Well, now I'm sitting here.
Voilà, voilà, voilà.
Très bien, je ne connaissais pas ça.
Ah, c'est super, moi j'adore ce groupe. Donc c'était les Neon Boys avec That's All I Know, That's Right. C'était le titre du premier morceau donc de 1973. Et puis après, donc les Neckbones, c'était tiré de leur troisième album, The Lights Are Getting Dim, paru sur l'excellent label Fat Possum. À noter que les Neckbones se sont reformés pour un Gunner Fest, donc Gunner, le label de Memphis, et je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, voilà.
Mais le morceau de Neon Boys, effectivement, tu disais Garage 60, c'est vraiment ça. Hein.
Ah ben complètement.
Avec en 73. Hein.
Ouais, le début, on dirait même du Link Wray.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Ouais, mais... c'est vraiment un mélange. Et donc, on peut voir les talents guitaristiques hein, de notre ami Tom Verlaine, hein, qui assure vraiment bien. Par contre, le batteur, il est plus proche de celui des Kingsmen, celui-lui. Hein. Il y a deux, trois coups.
Il y a des roulements.
Non, il n'est pas dedans.
Il n'arrive pas au bout de sable, comme on dit. Il n'en met pas une dedans, comme dit notre ami Chacha.
Exactement.
Je vais te parler d'un monsieur qui s'appelle Declan Patrick McManus. Est-ce que tu sais qui est Declan Patrick McManus ?
Oui, je crois qu'il a produit les premiers albums des Specials.
Oh, tout à fait, j'allais en parler. Eh bien, c'est Elvis Costello. Voilà.
Eh oui, l'excellent Elvis Costello.
Tout à fait. Donc, oui, il s'est fait appeler comme ça. On va voir après pourquoi. Donc, il forme à Londres en 1974. Hein, on revient cette année. Un groupe s'appelle Flip City. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, c'est un des premiers groupes de la scène pub rock anglaise. Mmh. On imagine assez mal Elvis Costello faire du pub rock, mais c'est vraiment ça. C'est un groupe qui va durer 2 ans, et à la séparation donc de Flip City en 1976, il continue d'écrire des chansons hein, tout en travaillant dans une banque. Et oui. Alors quand on voit la tête de Elvis Costello, on dit oui, on remarque qu'on le met avec un costume. Il avait déjà un costume d'ailleurs.
Exactement, il a une bonne tête de banquier. Ouais.
Et en plus, il travaillait au service informatique de la banque.
Non, mais en 76, ça devait être super. Il devait pas être foulé. Hein.
C'est vrai qu'on l'imagine bien, à la fois informaticien et banquier, il a la double compétence. Donc il écrit beaucoup, il est très prolixe, hein, notre ami Elvis Costello. Donc il cherche un label bien sûr, et grâce à une démo, il est en fait signé par le label indépendant britannique Steve Records.
Ouais.
En 77. Donc il se retrouve à Londres en 77, t'imagines. C'est là qu'il prend le pseudo d'Elvis Costello sur les conseils de son manager. Alors pourquoi Costello ? Eh bien c'est le nom de scène de son père qui était chanteur de jazz.
D'accord.
Et qui a choisi lui-même.
C'était pas Michel Jonas alors.
C'est ça. Et c'était en fait le nom de la mère de son père, donc de sa grand-mère maternelle. Et Elvis, bah, en allusion évidemment à Elvis Presley, début de carrière très très rock 60s, on va le voir. Hein. 50s, pardon. Il sort un premier single, hein, Less Than Zero, qui reprendra très très souvent sur scène. Puis, 2 mois plus tard, son premier album, My Aim Is True, sort en mai 77. Alors, c'est un album très dépouillé musicalement. La production n'est pas extraordinaire, hein, on se faisait la réflexion. Mais c'est vraiment très, on dirait presque de la prise live. Hein. Ça se balade entre le folk et le rock'n'roll 50s. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette pochette. Bien sûr. Il a l'attitude et le look de Buddy Holly, en fait.
Complètement, ouais, tout à fait.
Avec des lunettes énormes qui deviendront sa marque de fabrique.
Voilà, mis à part qu'il n'a pas une Stratocaster, mais une Jazzmaster, c'est mais ça, sinon, voilà. C'est vraiment très similaire. Ouais.
Donc les fameuses lunettes d'Elvis Costello. Hein. La même année, Costello recrute par des auditions, hein, carrément, il faisait passer un groupe permanent, donc on appelle un backing band, qu'il va nommer The Attractions, constitué de Steve Neave à la guitare, Bruce Thomas, bassiste, et Pete Thomas, batteur. Je ne sais pas s'ils sont frères. Costello est alors considéré comme un chanteur de punk à l'époque. Dans la manière
Temps, c'était pratique, hein, c'était un peu la mode.
Oui. Alors un peu plus tard, les premiers groupes de post-punk étant classés sous le terme de New Wave, ils seront également qualifiés d'artistes New Wave.
Exactement. Voilà, oui.
Le problème avec Steve Records, c'est qu'il ne distribuait rien du tout aux États-Unis. C'est un peu embêtant quand même quand on veut.
Quand on a un vrai anglais, normalement, on fait ça.
Le Brexit. Ah non, parce que le Brexit, il voulait justement se rapprocher des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami Costello ? Eh bien, il va devant les locaux de CBS Records aux États-Unis. Et avec son groupe, il s'installe dans la rue et il commence à jouer devant les locaux.
Ça, c'est la classe.
Et en fait, ils se font remarquer, il y a une foule, etc. Ouais. Et ils se font remarquer comme ça. Et ils se font signer chez CBS Records.
La classe. Super.
La classe, ouais. Donc ça, c'est en décembre 77. Hein. Alors, le premier album d'Elvis Costello and the Attractions, qui s'appelle This Year's Model, sorti en 78. Alors, il est considéré comme un des meilleurs albums, un des chefs-d'œuvre hein, de Costello. Alors, on y trouve... notamment les tubes I Don't Want to Go to Chelsea et l'incontournable Pump It Up. Hein, tu le connais bien sûr. Ouais. Vous le connaissez tous ce morceau, Pump It Up, un tube. Hein. Il suit par une tournée aux États-Unis et au Canada et qui entraîne également la sortie du Live at the El Mocambo, donc enregistré aux États-Unis. L'année 79 voit Costello atteindre le sommet de son succès commercial avec la sortie du LP Armed Forces. S'en suivront 6 autres albums avec The Attractions jusqu'à leur séparation en 84. Puis une impressionnante carrière solo. Hein. Il a sorti à ce jour 42 albums, Elvis Costello. Mais il est également producteur, hein, donc notamment, comme tu l'as dit, du premier album des Specials en 79, qui s'appelle Specials d'ailleurs.
Exactement. Hein.
Il a également beaucoup co-composé avec Paul McCartney. Paul McCartney adorait sa manière de faire. Il co-composait vraiment, aussi bien les paroles que la musique. Il a été également acteur dans une vingtaine de films. Et dans énormément, j'ai vu un site qui répertoriait toutes les séries télé dans lesquelles il a pu jouer. Il y en a une bonne soixantaine. Hein. Alors, artiste éclectique, un critique a écrit à son sujet, Costello, encyclopédie vivante de la pop, peut réinventer le passé à sa propre image. Effectivement, il s'est tourné vers beaucoup, beaucoup de styles différents, extrêmement prolixe. Ouais. Notamment, il s'est tourné un petit peu vers le jazz plus récemment. À savoir qu'il est marié avec Diana Krall.
Bah, c'est peut-être pour ça. Ouais.
Bah oui, chanteuse de jazz Diana Krall. Hein. Voilà, donc on va écouter un morceau du premier album de Costello and the Attractions en 78 qui s'appelle This Year's Model. Et on va écouter le premier album, donc il était encore en solo, il n'y avait pas les Attractions, le LP, donc My Aim is True. Donc on écoute You Belong to Me d'abord et Mystery Dance ensuite.
Yeah, I was waiting with a safety net. Said, don't bury me, cause I'm not dead yet. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Well, I remember when the lights went out and I was trying to make it look like it was never in doubt. She thought that I knew and I thought that she knew. So both of us were willing, but we didn't know how to do it. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. My left foot from my right. You can see those pictures in a magazine. But what's the use of looking when you don't know what they mean? Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied.
Bien joué, bien joué.
Oui, oui, donc on a vu là deux facettes hein, ouais. Assez différentes, à un an d'écart à peine. Hein. Premier morceau, donc You Belong to Me, premier album de Elvis Costello and the Attractions, This Year's Model. Il y a un petit peu de quelque chose comme pareil, hein, c'est de la pop un peu 60s. Hein,
complètement.
Voilà. Ouais. Mais avec, je sais pas si tu. Et quand on écoute les autres morceaux de cet album, il y a du Joe Jackson là-dedans.
Oui, un petit peu, dans le chant, tout à fait.
C'est l'époque. Hein.
Puis c'est un courant de cette époque, effectivement. Alors moi, j'ai un 33 tours de Elvis Costello avec les Attractions. C'est un truc plutôt rhythm and blues. Il y a 22 titres.
C'est ça,
morceaux d'une minute 10.
Même Costello, il a fait des choses vraiment extrêmement, extrêmement variées. Et il a fait de la soul, effectivement, aussi.
Ouais. Ouais, ouais.
Et puis, donc, deuxième morceau. Alors là, c'est pur rock'n'roll 50s. Hein.
Ah, complètement. Ouais.
Mystery Dance, donc du premier enregistrement de Elvis Costello, sorti de l'album My Aim Is True, premier LP, 1977.
Très bien. Eh bien, il est 18h50, donc ça va bientôt être la fin.
Alors,
déjà, ça passe tellement vite. Donc, on va se donner rendez-vous, non pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines. Oui, parce que je ne serai pas disponible dans 15 jours, donc ce sera donc le 22.
Et je ne peux pas faire cette émission tout seul, car je suis un sacré branque en termes de technique. Je ne suis pas un technicien du tout. J'ai deux mains gauches avec que des pouces, donc c'est pas possible.
Donc, ce sera donc la numéro 30, ce sera le 22 février. Mais en attendant, il nous reste encore un petit peu de temps, malgré tout, puisque tu nous as emmené en 1977, eh bien, je vous propose de rester dans cette période-là à Londres. Alors, je repars dans le standard. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Alors, bon, pure coïncidence, puisque il s'avère que c'est aujourd'hui ou c'était hier, c'est l'anniversaire de notre ami Johnny Lydon, Johnny Rotten. Mm-hmm. Voilà, et donc, je vais donc vous parler des Sex Pistols. Alors, je ne vais pas trop parler des Sex Pistols, évidemment, puisqu'il vous suffit juste de taper sur Internet Sex Pistols History, vous avez toute l'histoire. Mais sachez quand même que Nevermind the Bollocks, un super bon nom d'album, c'est quand même pour moi l'un des disques fondateurs quand même de l'histoire du rock'n'roll. Alors il y a plusieurs classements aux États-Unis, il le classe, je crois que c'est Rolling Stone le classe 44e. Bon, le NME le met je crois 6e des albums anglais les plus importants de tous les temps. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Alors effectivement, ce disque c'est très bizarre parce qu'au départ ce disque et ce groupe, parce qu'au départ c'est Steve Jones, donc le guitariste, et pour moi je trouve que Nevermind the Bollocks c'est avant tout le disque de Steve Jones avec son ami Paul Cook, le batteur des Pistols, mais en fait fonde un groupe les Strand avec des reprises, hein, un petit peu de tout, notamment des Small Faces, de genre de choses, et puis très rapidement en fait il rencontre McLaren qui lui a déjà sa boutique de fringues avec Viviane,
sa boutique de voitures de sport,
voilà, c'est ça, ouais. Avec Viviane Westwood, voilà, qui va changer de nom plusieurs fois pour finir par le nom de Sex et puis d'appeler le groupe Sex Pistols pour que ça matche, parce que bon, bah, McLaren c'est quand même avant tout un tiroir caisse à la place du cerveau, et puis c'est McLaren quand même qui leur présente Glenn Matlock, donc le premier bassiste des Sex Pistols, et puis après donc Johnny Rotten déboule, et donc voilà, alors du coup Le nom de Strand, il devient les Sex Pistols. Alors, il y a un premier 45 tours qui est signé chez EMI, donc c'est Anarchy in the UK. Bon, le contrat dure que 6 mois, hein, à cause justement de la chanson. Et donc là, cet enregistrement, c'est bien Glenn Matlock à la basse, et c'est cet enregistrement-là qui va être réutilisé pour l'album. Puisque après, donc, ils vont faire à peu près tous les labels de l'époque, hein. Ils passent chez donc, EMI, AIM, Virgin, enfin bon, ils se font vider, etc. Mais bon, ça alimente un petit peu, ça fait monter la sauce. Et puis pendant ce temps-là, bien, au fait, ils ont des contrats. Et puis, ben, on est en train de produire un disque. Hein. Donc, il y a Chris Pyding notamment qui enregistre les démos pour l'album. Mais qui enregistre simplement les démos. Et puis. Au fait, pendant tout entre les histoires de plateau télé avec des gros mots, genre de choses, et puis des tournées annulées, etc., mais au fait, faut quand même enregistrer. Et puis, au fait, c'est essentiellement Paul Cook, bon, qui circule à la batterie, et Steve Jones qui fait les parties guitare, mais au fait, qui se retrouve à faire quasiment toutes les parties basses. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est son album. Alors, au fait, il y a donc deux Matlock, il y a Anarchy in the UK, et puis, donc, Matlock se fait virer pour être remplacé par Sid Vicious, qui est un piètre bassiste. Sid Vicious n'aurait enregistré que Body sur l'album. Donc au fait, après il reste 10 chansons où Jones donc assure guitare et basse. Alors avec un son de guitare monstrueux, a priori selon la légende, il y aurait une quinzaine de couches de gratte, ce qui fait ce son assez fabuleux. Donc du coup, je vais vous proposer d'écouter, bien en fait, pas le morceau le plus connu peut-être de l'album, c'est 17, hein, donc avec la voix de Lydon, donc hyper nihiliste, voilà, j'ai 29 ans, j'ai rien, je ne fais qu'attendre, je suis un feignant, et qui s'est enchaîné avec un morceau chanté par Steve Jones qu'on retrouve sur la grande série du rock'n'roll, c'est Lonely Boy, avec des paroles un petit peu inspirées de la chanson éponyme de Paul Anka, mais avec beaucoup plus vulgose. Donc on se fait des bisous, on se quitte, oui, avec les Pistols.
À très bientôt, et donc dans 3 semaines cette fois-ci.
Exactement, c'est ça. Allez, bise.
Salut.
touch.